Rencontre.
Rencontre avec Nathalie Lefèvre. En tête à tête avec les thérapeutes.
Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui nous sommes en duplex avec le Canada, voilà c'est un grand plaisir, Radio Médecine Douce voyage à travers nos invités. Alors on a le plaisir d'avoir pas dans le studio finalement de manière assez concrète, mais par téléphone, Jean Gagliardi. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous vous intéressez à la sphère du rêve, à la méditation, à la psychologie des profondeurs. Voilà, on voulait parler ensemble aujourd'hui du travail avec les images intérieures, qui est un thème qui vous tient particulièrement à cœur, il me semble.
Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que je me passionne depuis une trentaine d'années pour les rêves, mais au-delà du rêve, j'aime parler des images intérieures parce que non seulement le rêve est intéressant, mais l'imagination et toutes les images qui nous viennent de l'intérieur, qui viennent sans arrêt recouvrir notre perception de la réalité. Alors, on rêve la nuit, on a des scénarios d'histoire qui se construisent comme ça pendant la nuit et qui déjà nous amènent beaucoup d'éléments sur notre vie, sur ce qui se passe dans notre journée, sur des choses auxquelles on devrait prêter attention. Et puis, si on apprend à prêter attention finalement à ce qui se passe en nous, on peut se rendre compte que c'est comme si on rêvait un petit peu en permanence. C'est comme si face à tous les événements de notre vie, toutes les situations, il y a des images qui montent en nous. La plupart du temps, on n'en est pas conscient, et pourtant, elles ont une énorme importance, parce que, par exemple, c'est au travers de ces images qu'on va interpréter des situations. Quelque chose se passe, une personne, par exemple, rentre dans une pièce, et avant même qu'on l'ait vraiment fait attention à qui est cette personne, qu'on ait vraiment pris connaissance de qui elle est, on s'en est formé une image. Et automatiquement, on a des réactions et des scénarios qui se mettent en place autour de ça. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai été amené à m'intéresser à la méditation comme un des moyens privilégiés de prendre conscience de ce flot d'images intérieures, en fait, de toute cette activité onirique, on pourrait dire, en permanence à l'intérieur.
Alors, l'idée, c'est que dans n'importe quelle situation, on va avoir des images mentales qui vont être représentatives de quoi ? D'a priori
Ce sont essentiellement, en fait, c'est que notre cerveau est constitué, pourrait-on dire, c'est encore une image, c'est une métaphore, on pourrait dire que notre cerveau est constitué un peu comme un ordinateur qui a des banques mémorielles qui sont essentiellement des images. Quand je dis des images, c'est pas nécessairement visuel, hein, c'est une association d'éléments de perception. Dans une image mentale, dans une image intérieure, il peut y avoir une odeur, par exemple, un parfum, il peut y avoir une musique. Et aussi, lui sont associés très généralement des émotions. En fait, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, ce dont on se souvient essentiellement, c'est comment on s'est senti dans telle ou telle situation. Vous savez qu'on dit par exemple que nous ne retenons qu'environ 10% de ce qu'une personne nous dit dans un échange, mais en réalité, nous nous souvenons à peu près à 90% de comment nous nous sommes sentis dans cet échange. Okay. C'est bien que quand nous revoyons cette personne, ce n'est pas ce qu'elle nous a dit la dernière fois qu'on l'a vue qui va nous revenir à l'esprit. C'est l'émotion, les émotions qu'on a ressenties en sa présence. Et ces émotions sont associées à ce qu'on peut appeler des images intérieures. Pour rester un peu dans la neurophysiologie, puisque je parlais du cerveau, on peut dire que les images sont la contribution du cerveau droit. Là où notre cerveau gauche élabore un discours sur le réel, c'est-à-dire une pensée rationnelle, un langage articulé pour expliquer comment sont les choses, qui peut se passer, quelles sont les possibilités. On a un deuxième hémisphère cérébral, le cerveau droit, qui réagit, lui, instantanément à toute situation, à tout ce qui se passe, en produisant une image mentale. Et une des difficultés qu'on rencontre, finalement, au quotidien, c'est que nous avons tendance à prendre l'image pour la réalité, à prendre l'interprétation que nous nous faisons des choses pour ce qui est en face de nous, et au fond, à partir de là, à nous identifier à ce qu'on appelle nos projections. Nos projections, c'est-à-dire qu'on projette une certaine image de la réalité sur les choses. C'est complètement normal, ça fait partie de notre mécanisme adaptatif, je dirais. C'est notre cerveau a fait ça depuis des millénaires. Donc, vous imaginez par exemple que les chasseurs d'il y a 15 000 ans, quand il y avait un bruit près d'eux alors qu'ils étaient dans la forêt, ils n'avaient pas nécessairement le temps d'analyser qu'est-ce que c'était. Instantanément, dans leur esprit se formait l'image, par exemple, d'un fauve, et ils avaient un réflexe de protection avant de vérifier qu'éventuellement ce n'était pas aussi dangereux. Mais finalement, c'est extrêmement problématique, parce que par exemple, ça se mêle de toutes nos relations, et ça interfère avec nos relations, par exemple, en faisant que on interprète les situations, on interprète les comportements des gens, non pas à partir de l'instant présent, mais à partir d'images que nous nous sommes formées dans le passé.
Oui, donc ces images intérieures, elles viennent toujours de ce qu'on connaît aussi, de ce qu'on a vécu, des liens, des rencontres que l'on a fait auparavant, du lien qu'on a eu avec ses parents peut-être. Ça provient d'une banque de données, de choses qui font partie de notre expérience.
Oui, et pas seulement. C'est-à-dire que ce qu'il y a de très intéressant quand on s'approche justement des rêves, ou quand on approche de plus près l'imagination, c'est que la mémoire, c'est le premier niveau, c'est ce que... c'est ce que notre cerveau va nous fournir en permanence, instantanément, par rapport à une situation, par rapport à une rencontre. Et en même temps, ce cerveau droit est créatif sans arrêt de nouvelles images qui tendent à essayer de résoudre les difficultés que nous rencontrons. C'est-à-dire que c'est vraiment notre part créative. Si je le ramène par exemple à nos rêves, quelle que soit la compréhension qu'on a de ce que sont les rêves selon la psychanalyse ou selon d'autres approches, je crois qu'il y a un consensus pour dire que d'un côté les rêves ont une fonction digestive de la réalité, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de l'absorber, nous permettent d'absorber les éléments d'information qui nous viennent de l'extérieur et de les
synthétiser.
Les synthétiser, c'est ça, oui, c'est excellent, merci. Et d'un autre côté, comme cette réalité est sans arrêt en mouvement, en changement, les rêves et le cerveau droit participent sans arrêt à ce changement en proposant de nouvelles images, en proposant de nouvelles possibilités de comportement. Donc il y a vraiment un double mécanisme. Il y a à la fois une mémoire, et en compensation de cette mémoire, en autant quelque part qu'on fasse l'effort de travail conscient pour essayer d'entendre qu'est-ce qu'il y a dans ces images, on va s'apercevoir qu'elles nous proposent des solutions créatrices. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de s'intéresser aussi bien aux images qu'aux images intérieures, enfin, aux images de rêve, qu'aux images intérieures, aux images de l'imagination, c'est que ça va être très souvent une façon de sortir du cadre mental un petit peu préétabli qu'on peut avoir. Vous connaissez peut-être ce petit casse-tête où il s'agit de faire se rejoindre des lignes, enfin il s'agit de faire un dessin particulier sans jamais lever le crayon et sans croiser de lignes. Et ce n'est pas possible si on reste dans le carré dans lequel il a été défini. Ça devient possible dès lors où on échappe à ce cadre et on se permet de sortir du carré.
Des sentiers battus, ouais.
Voilà, pour revenir dans cette... bon, alors, notre cerveau droit, là où notre cerveau gauche, finalement, rationnel, définirait le carré, définirait le cadre de ce qu'on connaît, Notre cerveau droit, d'une part, nous restitue les mémoires sur lesquelles s'appuie le cerveau gauche pour élaborer sa pensée, etc. Mais les mémoires en question, et ça c'est l'aspect fascinant de la psychologie des profondeurs, ne sont pas que personnelles. C'est-à-dire qu'on a accès aussi à ce qu'on appelle, après Jung, l'inconscient collectif. Et c'est-à-dire qu'on bénéficie finalement de la mémoire de nos ancêtres et au fond de toute l'espèce humaine, de toute l'histoire de la conscience. On transporte d'une certaine façon des connexions mémorielles avec tout ça. Donc ça va aussi nous fournir des éléments de réponse des fois face à des situations qui nous mettent devant l'inconnu. Au fond, qui seraient des éléments qu'on pourrait presque qualifier d'instinctuels, c'est-à-dire comment l'espèce humaine au grand complet, depuis toujours, a cherché à réagir à telle ou telle situation. Et si on prend encore le temps d'aller plus profondément, on touche à quelque chose qui est créateur, c'est-à-dire qui ne fait pas que répéter les images anciennes, mais qui cherche toujours, à les faire évoluer. Il faudrait que je vous donne un exemple, peut-être pour être le plus clair possible. Admettons comme ça justement que je doive donner une conférence devant un panel de médecins, de thérapeutes à qui je vais aller parler des rêves. Et puis c'est un public à qui j'ai pas l'habitude de parler, en tout cas les médecins, et je peux avoir le trac avant d'aller les voir. Alors, ce trac, c'est une émotion qui me vient justement de différentes expériences et surtout de l'imaginaire que j'ai commencé à construire autour de cet événement. Donc, dans mon imaginaire, il y a une crainte, il y a des émotions un petit peu. Ça me rappelle peut-être justement quand j'étais appelé au tableau, quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant. Il y a quelque chose qui m'inquiète là. Alors, si par exemple, je prends le temps de vraiment méditer un petit peu, c'est-à-dire méditer tout simplement dans mon langage, ça veut dire surtout revenir à écarter les réponses automatiques du mental pour être simplement présent à ce qui est là. Donc, je vais commencer par être présent à la peur, à mon trac, à éventuellement des souvenirs qui remontent de l'école, qui sont des images mentales. Puis, je peux me demander cette peur, si je lui donnais, si je la mettais dans une image, qu'est-ce que ce serait? Comment elle serait? Et dès lors où je me pose cette question, je peux être très surpris qu'il y ait quelque chose qui émerge dans mon imagination et que je vois à ce moment-là une jeune pousse au printemps qui commence à percer la neige et qui commence à sortir. Et là, je réalise, en regardant cette image, qu'au fond, cette peur, elle est naturelle parce qu'il y a un mouvement de vie. Mais il y a aussi une résistance, il y a aussi nécessairement une résistance du milieu. Et je peux commencer à explorer cette image sous toutes ces différentes facettes. Alors, ma peur, par exemple, c'est bien représenté dans la dureté de la terre, la froideur de la neige, tous ces éléments qui vont contre la croissance de la plante, a priori. Mmh. Mais en même temps, si j'éprouve ce trac, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Si j'avais pas envie d'y aller, j'éprouverais pas de trac. J'éprouverais juste le désir de ne pas y aller. Point. C'est tout. Je trouverais une raison quelconque pour m'excuser. Et je n'irais pas. Mais ce trac lui-même est le signe de ce qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur et qui me exactement comme cette plante qui tend à sortir. Alors, je peux me concentrer dans l'image, dans tous ces différents aspects, et je peux aussi me concentrer non seulement sur mon trac, mais sur ce que j'ai envie de communiquer à ce panel de médecins. Et ce que j'ai envie de communiquer, c'est cette force. C'est représenté dans l'image de cette plante qui cherche à émerger. Et en ayant observé l'ensemble de l'image, j'ai un paysage intérieur beaucoup plus complet que seulement mon trac. D'un coup, je viens de voir que mon trac, il est naturel, et qui correspond aussi qu'il est le contrepoids d'une autre force intérieure qui veut émerger, se dire. Déjà, simplement en ayant fait ce travail, je suis capable après d'aller devant le panel de médecins en n'étant pas identifié à mon trac, en n'étant pas pris à mon trac, en sachant qu'il est là, et en sachant aussi qu'il y a autre chose et que je suis plus vaste que lui.
Oui, et qu'il est représentatif, là, en tout cas dans ce cas-là, d'une forte envie de dépassement et d'inconnu.
Voilà. Et alors, c'est un travail qui a beaucoup de comment dire, on peut jouer avec beaucoup de subtilité dans ces choses-là. Par exemple, en psychologie des profondeurs, on a une notion qui est la notion de l'ombre. L'ombre, ce sont des parties qu'on n'a pas nécessairement, des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas nécessairement développées, mais qui vont apparaître dans certaines circonstances, et dans les circonstances dans lesquelles je veux parler là, ça peut être des circonstances qui peuvent nous rendre service. Alors, admettons, c'est pas vraiment le cas, mais admettons que je sois justement très timide et que j'ai pas développé la capacité de parler en public, je pourrais aussi imaginer que cette capacité de parler en public, je pourrais me la représenter sous la forme d'une image. Qui est-elle ? Je pourrais rentrer en dialogue avec cette partie de moi. Je pourrais me la représenter, donc laisser monter une image, et puis par exemple, je pourrais voir quelqu'un qui fait 1m90, qui a des larges épaules, puis que rien ne semble pouvoir ébranler, et qui me communique un sentiment, en sa présence à l'intérieur, en travaillant avec cette image, de sécurité, parce que lui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui semble pouvoir l'impressionner. Eh bien, c'est une technique de travail avec les images intérieures que d'aller à la rencontre de la difficulté réelle à laquelle on va faire face, comme d'aller parler comme ça devant un panel de médecins, en faisant appel à son ombre. Et donc, en se présentant devant eux, en visualisant littéralement, ou en ayant à la conscience la présence à côté de soi de cette partie intérieure, à qui on délègue d'une certaine façon le ben « maintenant, moi, je vais prendre un petit peu de retrait et je vais te laisser aller en avant et c'est toi qui vas parler ». Et ce que ça fait, c'est que ça invite cette force qui était celle de la plante qui voulait émerger, percer la croûte de terre et de neige pour apparaître, ça invite cette force intérieure à s'activer et à prendre sa place. Alors, moyennant quoi, à ce moment-là, si devant mon panel de médecins, je commence tout simplement par avouer mon trac et leur dire, vous savez, je suis pas tout à fait à l'aise de parler devant vous, j'ai pas l'habitude de parler devant un panel de médecins, je redoute éventuellement les questions que vous pouvez me poser. Déjà, évidemment, je m'ouvre dans ma vulnérabilité, ce qui est une chose qui n'est pas nécessairement facile, mais ça évite que le trac me possède d'une certaine façon. C'est comme le mettre à nu, le mettre un jour. Et ce faisant, je dégage la voie pour l'autre côté. Et pour l'avoir vécu dans d'autres circonstances, ça peut être très surprenant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se retrouver à parler pendant une demi-heure sans se rendre compte que le temps s'écoule, emporté par son sujet, simplement parce qu'en effet, en avouant son trac, on a quelque part désamorcé la peur, on a su être en relation avec ce contenu émotionnel. Très généralement, vous savez ce qui se passe quand on avoue ce genre de difficulté devant un auditoire, c'est que les gens en face sourient, apprécient le fait qu'on manifeste notre vulnérabilité eux-mêmes. Ça leur parle, eux-mêmes pourraient ressentir la même vulnérabilité, mais surtout, d'une certaine façon, c'est comme de reconnaître la réalité qui est à l'intérieur, la réalité qui est présente, et de lui permettre à partir de là d'évoluer, de se transformer. Et c'est donc à ce moment-là que, par exemple, une dimension d'ombre qu'on a rendue un peu plus consciente peut prendre le relais. Et au fond, c'est un peu comme si on a une sous-personnalité qui émerge. On n'est pas figé dans une simple personnalité, mais on a on a de multiples aspects dans notre personnalité et on peut comme ça choisir assez consciemment quel aspect de notre personnalité on va mettre en avant dans la réalité.
Alors moi, ce travail avec les images intérieures, ça me fait penser un petit peu déjà aux outils d'hypnose et de visualisation et surtout de préparation mentale. Quand on prépare des sportifs à des compétitions, souvent on leur fait visualiser en amont les choses. Alors est-ce que c'est un travail qui se rapproche de l'outil hypnotique ?
Oui, c'en est proche. Ça utilise éventuellement des techniques qui sont qui peuvent être tout à fait liées à ce qu'on appelle la suggestion et qui est le fond commun avec l'hypnose. De la même manière, ce dont vous me parlez avec les sportifs, ces techniques de visualisation, ça va jusqu'à l'entraînement en rêve lucide. Quand un certain nombre de sportifs arrivent à rêver lucidement, c'est-à-dire à vraiment prendre conscience qu'ils sont en train de rêver pendant qu'ils rêvent, mmh. et utilisent à ce moment-là le rêve vraiment comme un terrain d'entraînement. Et on a des exemples frappants, comme quoi certains exploits sportifs, je pense par exemple à des gymnastes devant répéter des mouvements précis au millimètre près, s'étant entraînés comme ça en rêve lucide, ont augmenté leur performance de façon mesurable. On parle d'une augmentation de performance de 15 à 20%. Alors, l'hypnose, la visualisation, ou ce qu'on appelle, dans le cadre de la psychologie jungienne, l'imagination active, aussi le travail avec les rêves, qui peut être donc de différents ordres, qui peut être aussi bien un travail d'interprétation, c'est-à-dire d'écoute, de ce qui s'exprime dans les rêves, mais aussi de dialogue à travers l'imagination avec les rêves, ou encore pour les gens qui ont une facilité dans ce sens-là ou qui font un entraînement dans ce sens-là, un entraînement à la lucidité onirique. Tout ça sont des techniques qui convergent autour du même des mêmes capacités du cerveau. Et qui sont appliqués dans énormément de domaines. Dans, par exemple, il y a une trentaine d'années, il y a des médecins, les Simonton, c'était un couple, qui a commencé à appliquer la visualisation à la guérison du cancer. Et à l'époque, ce qu'ils suggéraient à leurs patients, c'était de visualiser le cancer comme... comme un ennemi finalement, et de renforcer le système immunitaire et les défenses de l'organisme en imaginant que cet ennemi était submergé, était attaqué de tous côtés. Et puis on s'est rendu compte que c'était moins efficace d'antagoniser comme ça à travers les images avec ce qui est présent, que ce soit la maladie ou autre chose, c'était moins efficace que d'aller à sa rencontre, de chercher à le rencontrer à travers une image et de l'accompagner dans une évolution. Et éventuellement, quand dans le cas d'un cancer, on souhaite que ce soit une évolution dans laquelle il disparaît, bien sûr. Mais au fond, de plutôt que d'être en position d'antagonisme, de chercher à vraiment établir un dialogue. Parce que finalement, au travers de ce dialogue... Bien, c'est avec nous-mêmes que nous établissons un dialogue. Mmh. C'est avec des parties de nous qui ne sont pas conscientes, mais qui font partie de notre vie et qui, par exemple, dans le cas où ça a pris forme d'une maladie grave, la menace. Donc ça devient très très important de dialoguer avec elle.
Oui, finalement, devenir un petit peu l'alter ego de son trac, parce que c'est l'exemple qu'on a pris, de ses peurs, d'une maladie, c'est pouvoir, comme vous le disiez, créer un dialogue, mais surtout peut-être amener une forme de compréhension aussi.
La compréhension émerge du dialogue. C'est vraiment comme dans la vie quotidienne. Il se peut que quelqu'un fasse quelque chose devant moi que je ne comprends pas, puis qui me choque, qui me pose un problème, qui a tendance à me mettre en colère. Si ma première réaction, c'est d'antagoniser, de me mettre en colère, il est probable que je vais passer quelque temps dans ma colère à tourner en rond et justement à me dire « je ne comprends pas pourquoi cette personne a fait ça, c'est incroyable, c'est insupportable, ça ne devrait pas exister ». Et je vais tourner en cercle, au fond, jusqu'à ce que cette colère se soit épuisée. Et d'ailleurs, cette colère va être stockée dans mes mémoires, et à la première occasion, la même colère va ressurgir, justement, exactement par analogie entre les situations. Hein. Une autre situation rappelle la même image, rappelle la même colère, et ça ressort. Par contre, si je suis capable d'être avec ma colère, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de refuser cette colère. Si je suis capable, de la ressentir pleinement, mais de ne pas me laisser emporter, et d'aller trouver la personne qui a commis qui a fait cet acte qui me dérange tant, en lui demandant, mais pourquoi as-tu fait ça? Écoute, ça me pose vraiment, puis je peux être franc, ça me pose vraiment un problème que tu te sois comporté comme ça. Mais est-ce que tu veux bien m'expliquer? Parce que plutôt que de me laisser emporter dans un conflit, de rajouter encore un élément de conflit dans ma vie qui ne réglera finalement rien, j'aimerais comprendre précisément. Ben, il est fort probable que cette personne va me fournir une explication qui, si nous prenons suffisamment de temps pour nous écouter mutuellement, tôt ou tard, ça va se ramener à des besoins fondamentaux. Et il y a une règle qui est extrêmement intéressante, qui est entre autres le fondement de ce qu'on appelle la communication non violente, mais nous les êtres humains, nous avons tous les mêmes besoins. C'est-à-dire que nous sommes toujours capables, par empathie, de comprendre un autre être humain dans son besoin. Ça ne veut pas dire que l'expression de son besoin nous convienne, ça ne veut pas dire que la façon, ce qu'il en fait, nous soyons tout à fait capables de l'accepter. Nous pouvons avoir des difficultés avec ça. Et dans ce cas-là, ça vient heurter un de nos besoins à nous, et nous avons besoin d'en prendre conscience et de l'exprimer. Mais à partir du moment où on parle, on peut rétablir justement un canal de communication, et on peut se rendre compte que nous ne sommes pas aussi différents qu'il paraît, que nous ne sommes pas aussi isolés que ça. Alors, ce qui est vrai dans les relations interpersonnelles est encore plus vrai à l'intérieur de nous. Où là, toutes nos parties, finalement, sont l'expression, qu'elles soient conscientes ou pas, sont l'expression de nos besoins fondamentaux, font partie de nous, et nous pouvons les comprendre de l'intérieur. Ça permet d'aller dialoguer aussi bien avec des symptômes qu'avec des peurs, qu'avec des compulsions. Des compulsions contre lesquelles on serait porté à se battre parce que, justement, il y a un niveau de notre conscience où on trouve, par exemple, inacceptable de continuer à fumer ou de continuer à se comporter comme ça. Et puis, bah, si on prend l'exemple, par exemple, de la cigarette, combien de gens essayent d'arrêter, puis il y a quelque chose de plus fort qu'eux qui reprend le dessus. Et ils sont dans un rapport antagonique avec ça. Or, s'ils pouvaient commencer à entrer en dialogue avec la cigarette à l'intérieur d'eux, interroger à quel besoin ça répond, qu'est-ce qu'elle apporte cette cigarette, et comment cette cigarette peut rentrer en dialogue avec d'autres parties à l'intérieur, comme par exemple la peur que le fumeur peut avoir d'avoir finalement une maladie grave à cause du tabac. La tension intérieure diminue et éventuellement le besoin de fumer diminue lui aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fond, ces parties qui se manifestent en nous en angoisse, en compulsion, très souvent, tout ce qu'elle cherche finalement à faire, c'est qu'elle frappe à notre porte pour qu'on entende quelque chose. Et elle frappe d'autant plus fort qu'on y est sourd. Mais dès lors où on ouvre la porte, dès lors où on accepte de les rencontrer, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître du jour au lendemain, mais éventuellement, la tension intérieure va diminuer et ça va commencer à se transformer. Ça va d'autant plus commencer à se transformer si on prend conscience que derrière telle ou telle chose, il y a un besoin et que je peux prendre consciemment en charge ce besoin au lieu de laisser un réflexe un peu conditionné par le passé s'en occuper.
On prend les choses en main de l'intérieur, finalement.
Exactement. On prend les choses en main de l'intérieur et aussi on arrive dans notre réalité présente immédiate. Au fond, on vit la vie dans l'instant présent avec tout ce qui est là. Ce qu'il y a de qu'on dira de négatif, et je mets des guillemets autour de ça, mais c'est-à-dire que si on le qualifie de négatif, c'est qu'on ressent une difficulté face au fait que ça existe, qu'on préférerait que ce soit pas là, ou qu'on voudrait que ça se transforme. Bref, on aurait tendance à lui dire non. Mais c'est quand même là. Oui. Et on a beau faire, ça persiste. On dit même que... Il y a une petite phrase qui est très intéressante à avoir à l'esprit, c'est que tout ce à quoi on résiste persiste. Et par contre, tout ce à quoi on fait face s'efface. Et justement, donc, ce travail avec les images intérieures, c'est d'une certaine façon consiste à faire volte-face. Et au lieu de dépenser notre énergie à nous battre contre ce qu'on ne veut pas voir dans notre vie, à nous retourner vers l'intérieur pour interroger.
On accueille pour comprendre.
On accueille pour comprendre. On ouvre un espace. On ouvre un espace pour accueillir. Et la première vertu, et ça je crois que toutes les personnes qui ont expérimenté la méditation ont pu le vérifier, la première vertu, c'est que dès lors où on accepte de rencontrer ce qui est présent, on se rend compte qu'on est plus vaste, qu'on est plus grand, plus large que ce qui est présent, que c'est pas que qu'il y ait une anxiété, une angoisse, une difficulté, elle est pas là toute seule. C'est pas ça ne nous résume pas. On n'a pas besoin de s'y identifier. Elle a un contexte. Et puis si elle a un contexte, il y a aussi des forces qui vont dans le même sens et des forces qui vont contre, un peu comme le trac dont je parlais tout à l'heure. Hein, le trac, il a une raison d'être. Derrière une angoisse, il y a un désir, par exemple, très souvent. Derrière une peur, il y a une attente. Et en prenant conscience des facettes multiples de ce qui est à l'intérieur de nous, et en rentrant en dialogue avec ces différentes facettes, ben, encore une fois, la tension intérieure diminue. On se découvre plus vaste et tout d'un coup, on est capable de voir quelle place ça peut avoir dans l'ensemble de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut faire consciemment pour adresser les problèmes que ça nous pose. Carl Jung résumait ce travail, il ne l'avait pas formulé exactement comme ça, mais c'était déjà en filigrane dans ses recherches, donc dans les années 20, dans les années 30, Carl Jung, juste pour mention, c'était un des collaborateurs de Freud avant de créer sa propre méthode de travail sur les rêves et ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Et Carl Jung disait que à chaque fois qu'on arrive à déceler quelles sont les images dans les émotions, la paix intérieure s'installe. Et là, il dit quelque chose qui est très très surprenant, parce qu'on aurait tendance à croire que ce sont les émotions qui sont dans les images. Et ce qu'énonçait Carl Jung, c'est qu'au fond, notre psyché est faite d'images, tout le temps. C'est un flot d'images en permanence, et que les émotions sont une couche un petit peu supérieure. C'est notre réaction, et c'est en particulier la réaction de notre corps à ces images et à ces pensées. Et donc, quelque émotion qui soit présente, on peut demander, mais si je mettais ça dans une image, quelle forme ça prendrait? Qu'est-ce qu'il y a là? Et on peut commencer à dialoguer avec cette image. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on passe par les images, on n'est plus du tout dans l'élaboration rationnelle, on n'est pas dans une tentative d'explication. On dialogue avec quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire que l'imagination, elle se transforme toute seule.
Ouais, bon, en tout cas, travail assez exceptionnel que de se mettre en contact avec ces images intérieures et de pouvoir... D'ailleurs, je trouve que ça nous rend tellement autonomes et libres aussi de pouvoir aller voir en soi, justement, laisser place aux choses qu'on essaye de camoufler la majorité du temps, mais là, leur laisser un espace de, en fait, d'expression, en quelque sorte, et soi-même, ensuite, d'en avoir une compréhension. Donc, je trouve qu'en plus, ça fait cheminer. C'est plutôt passionnant que de travailler avec ces images intérieures.
Ben, moi, ça me passionne, en effet. Puis, c'est vraiment... j'en fais mon pain quotidien. c'est vrai que c'est un travail exigeant. C'est pas un travail facile. On a tendance, en fait, à aller chercher la solution à nos difficultés à l'extérieur. Mmh. Ce que font cependant les thérapeutes, c'est très généralement de nous ramener justement à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, l'aide qu'on peut aller chercher chez un thérapeute, c'est toujours très généralement, je dirais, au fond, une médiation qui va nous permettre de rentrer en contact avec
ce
qu'il y avait à l'intérieur, mais qu'on n'arrivait pas à contacter. Alors c'est sûr que c'est pas un travail qui s'improvise comme ça du jour au lendemain. C'est une pratique progressive qui commence tout simplement par faire attention à nos rêves de la nuit, qui eux-mêmes, justement, comme on disait tout à l'heure, les rêves, c'est la digestion un peu de notre psyché, c'est un peu la façon dont notre psyché digère les événements. Et puis face aux difficultés qu'on rencontre aussi dans les rêves, il y a volontiers des approches créatives, des propositions créatives de la psyché. Mais en même temps, c'est très difficile de les interpréter comme ça, a priori. Mais déjà, simplement en y faisant attention, en leur accordant de la valeur, c'est comme si on commençait à prendre un conseil, au fond, à l'intérieur, comme si on autorise une partie de nous à nous communiquer quelque chose. Et en fait, une des erreurs que commettent beaucoup de gens par rapport aux rêves, c'est de vouloir à tout prix les expliquer, c'est-à-dire les interpréter, les ramener dans le langage du cerveau gauche. Alors que ce qui est le plus important avec nos rêves, c'est encore une fois comment ils nous font nous sentir. C'est les émotions qu'on a ressenties dans le rêve, et c'est les émotions aussi avec lesquelles on s'est réveillé, ce qu'on appelle le sentiment final du rêve. Parce que par exemple, si je rêve que je suis poursuivi, je marche dans les rues de Montréal pendant la nuit, et puis tout d'un coup j'entends des pas derrière moi, et puis j'accélère, et puis ces pas accélèrent, je me mets à courir, et on se met à courir derrière moi. Et puis je sais pas ce qui se passe, je perds la fin du rêve. Ce qui arrive bien souvent, il nous en reste juste une bribe. Et le sentiment final va être très très important, selon si je me suis réveillé en angoisse ou si je me suis réveillé rassuré. Parce que éventuellement, il s'est passé quelque chose à la fin de mon rêve dont j'ai perdu le souvenir, mais qui me dit finalement c'est pas grave.
C'est ce à quoi il faut faire attention.
Et en effet, par exemple, si je reviens grâce à l'hypnose, par exemple, je peux revenir dans mon rêve et je peux me rendre compte qu'en effet, la poursuite a été à un moment inquiétant dans le rêve et que finalement, c'est quelqu'un qui me poursuivait parce qu'il avait quelque chose à me donner.
Tout simplement.
Donc, et oui, on voit ça très souvent dans les rêves. On a une règle dans le travail des rêves qui est que tout ce qui vous poursuit cherche à rentrer en contact avec vous. Alors, j'illustre ça volontiers par les images un peu de contes de fées où on est poursuivi, par exemple, par un gros ours. Au Canada, on a des ours noirs dans les forêts pas très loin, puis c'est pas très agréable d'être poursuivi par l'un d'eux. Et donc, on court, jusqu'au moment où, complètement épuisé, on est obligé de s'arrêter, et c'est le moment où l'ours s'arrête près de nous et reprend son souffle et commence par nous dire « Ah ben, tu courais donc vite, mais regarde, j'avais un message pour toi. » Et à ce moment-là, comme dans tous les bons contes de fées, il se transforme en prince charmant.
On passe de l'ours au prince. Non, peut-être qu'il voulait juste un câlin, en fait. On a couru trop vite.
Voilà, c'est peut-être... voilà. Alors, c'est pour dire qu'au fond, c'est le vécu émotionnel du rêve qui compte. C'est le vécu émotionnel du rêve qui est vraiment important. C'est lui qui mérite qu'on y prête attention. C'est pour ça que c'est important, en fait, de noter nos rêves. Parce qu'en notant nos rêves, on se donne l'occasion de se remémorer les émotions qui ont accompagné ce rêve, puis de laisser venir tout ce qu'on appelle les associations, c'est-à-dire toutes les pensées, les souvenirs, les émotions qui accompagnent le rêve, qui accompagnent les différentes images du rêve.
Super.
Et puis, si on n'a pas de rêve, ça arrive souvent aussi, il y a des gens qui rêvent très peu, on peut commencer par simplement prêter attention à dans quelle émotion, avec
je me réveille.
Quoi je me réveille. C'est ça, c'est émergeant de la nuit et avant de réattaquer d'attaquer la journée, de tous les défis du quotidien, etc.
Qu'est-ce que j'ai ramené avec moi finalement? Qu'est-ce que je porte voilà, là exactement. Dans cet instant?
Et ça me donne une note. Et si je prends le temps d'écouter, de vraiment bien sentir cette note émotionnelle, ça me donne un point de départ. D'ailleurs, on sait tous que il y a des journées où on part d'un mauvais pied, comme on dira. Hein, on se lève du pied gauche. Ben, se lever du pied gauche, c'est se lever en ayant d'emblée une émotion négative par rapport à la journée qui s'en vient. Alors, par rapport au travail des rêves, qui est comme l'introduction au travail des images intérieures, c'est moins l'interprétation en tant que telle, c'est-à-dire moins la traduction du rêve dans le langage rationnel du cerveau gauche qui compte, que la connexion émotionnelle qu'on va pouvoir établir, et en particulier si on est capable de retrouver l'émotion du rêve dans un moment de notre vie diurne. Si par exemple dans mon rêve, il y a une porte qui se ferme devant moi et j'en ressens une colère et je donne un coup de pied dans la porte, la question intéressante, c'est où c'est que j'ai ressenti une colère similaire? Où c'est que j'ai eu envie de donner un coup de pied dans la porte? Peut-être que j'en ai pas été conscient. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée et où, par exemple, on m'a annoncé que telle opportunité, finalement, ça tombait à l'eau. Et puis, pris dans le flot des événements de la journée, j'ai pas plus prêté attention à ça, je suis passé à autre chose immédiatement, mais cette colère, elle est restée. Et si tout d'un coup, je suis capable de faire la connexion, de dire, ah, cette colère, oh oui, quand avant-hier, un tel m'a annoncé que notre projet tombait à l'eau, ma première réaction, ça aurait été de donner un coup de pied dans la porte. On a établi la connexion avec l'émotion du rêve et en fait, on a fait l'essentiel du travail. C'est-à-dire tout simplement qu'on a rapatrié consciemment l'énergie de la colère qui sinon serait restée enfouie, refoulée et qui éventuellement aurait ressurgi dans d'autres circonstances probablement inappropriées. Une autre fois où quelqu'un m'aurait dit non, tout d'un coup je me serais mis en colère d'une façon complètement irrationnelle. Donc, c'est cette connexion émotionnelle qui est comme une hygiène, déjà, pour commencer. C'est vraiment une hygiène mentale de simplement prêter attention à cette vie émotionnelle qui s'exprime pendant nos nuits, pendant nos rêves.
Et pendant nos jours. Alors Jean, nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Je vais juste, il faut qu'on puisse avoir le temps de donner le site internet. Je vais juste vous laisser conclure là-dessus.
Ben je vais conclure en disant qu'à partir de là, à partir de ce travail tout simple d'écoute des rêves, si après on a une pratique méditative quelconque, et puis par exemple ça peut être aussi bien de s'asseoir en silence, mais ça peut être aussi de se promener dans la campagne ou dans la ville en laissant nos pensées, en étant simplement présent à tout ce qui se passe en nous, alors on peut prendre chaque image, que ce soit les images de rêve ou les images de notre imagination qui nous ont travaillé dans la journée, et simplement, on pourrait dire littéralement, marcher avec elles, respirer avec elles, et puis elles nous communiquent des informations précieuses sur qui on est, sur quels sont nos véritables besoins, et aussi sur où s'en va notre énergie, vers où elle veut aller, comment elle coule. Ce serait, en résumé, c'est une présentation, bon, bien sûr résumée, mais l'essentiel du travail avec les images intérieures.
Bon, qui a un travail tout à fait passionnant et qui donne envie, surtout, encore une fois, de s'y mettre et d'essayer de mettre plus de conscience, plus de lumière sur ces émotions que l'on vit pendant la nuit, sur ces images intérieures que l'on vit tout au long de nos journées qui traversent notre esprit à longueur de temps. Voilà, merci en tout cas Jean d'avoir nous permettre de mettre un peu de conscience là-dessus. Alors avant de se quitter, on va donner un site internet si les auditeurs ont envie d'en savoir plus. Sur internet, en tapant votre nom, on trouve pas mal de conférences que vous faites, des vidéos. Est-ce qu'il y a un site un peu référent sur lequel on peut se rendre ?
Ben, c'est-à-dire que je tiens un blog qui s'appelle La Voix du Rêve et qu'on peut trouver à http://voixdurêve en un seul mot. blogspot.ca.
Super. Une adresse mail, peut-être, si les auditeurs ont envie de réagir à l'émission, vous envoyer un petit mot.
Oui, volontiers. Jean.gagliardi, G-A-G-L-I-A-R-D-I, @gmail.com.
Super. Jean, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'ai envie de donner une petite citation que tout le monde connaît, mais qui dit « La solution est en vous ». Je trouve que c'est très vrai et ça résume bien tous les propos que vous avez eus. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher à l'extérieur des solutions. Souvent, il suffit juste d'effectuer un travail à l'intérieur de soi et tout se libère.
Oui, tout à fait. Merci Nathalie de m'avoir invitée pour cette émission. Grand merci.
Et à très bientôt Jean, et on espère que vous serez de passage en France très prochainement pour venir dans les studios de Radio Bétine Douce.
Bien volontiers.
À bientôt, très bonne soirée.
Au revoir.